On refait le monde. Marc-Olivier Fogiel.
19h18 sur RTL, l'heure de l'échange d'idées pour vous aider à vous faire la vôtre. On refait le monde ce soir avec la rédactrice en chef de Causeur. Bonsoir Elisabeth Lévy.
Bonsoir.
Avec comme tous les lundis Nicolas Domenac. Bonsoir Nicolas.
Bonsoir.
Avec le rédacteur en chef du site The Conversation France. Bonsoir Didier Bourquerie.
Bonsoir.
Et le grand reporter du Figaro, Guillaume Perrault. Bonsoir Guillaume.
Bonsoir.
Accusé Cahuzac, levez-vous. Le procès donc de l'ancien ministre du budget pour fraude fiscale s'est ouvert tout à l'heure, vous le savez, mais les avocats de Jérôme Cahuzac ont déposé des questions, des QPC, donc contestant le cumul de sanctions pénales et fiscales. Alors, 3 ans après le séisme politique provoqué par son mensonge, plusieurs questions ce soir. Selon vous, une affaire Cahuzac pourrait-elle de nouveau arriver en France? Et puis, Jérôme Cahuzac n'a-t-il pas assez payé sur les réseaux sociaux? Benoît Galeret de LCI, bonsoir.
Bonsoir. Ah non, la couleur et la colère est toujours intacte. Hein. Ce mec, il nous vole et au lieu de faire profil bas, il bombe le torse, enrage Francis en voyant les photos de son arrivée au tribunal. Quelle prestance, monsieur le chef des traqueurs de fraude fiscale, renchérit Philippe. Et merci, hein, car la République de 2016 doit beaucoup à votre exemplarité. Celui qui se qualifie de banni de la République n'est rien d'autre qu'un bandit de la République à surprofit. Frédéric confesse avoir encore la nausée en pensant à cette affaire. Eh, pas de lynchage, que les journalistes restent à leur place, lance Sylvie. Et justement, Cahuzac lui-même a usé des mains sur un photographe pour le remettre à sa place. Après les yeux dans les yeux, la main dans la gueule, comme titre le site de Libé. Ouah, il a la rage, le délinquant, ricane Gourlot. C'est symptomatique de ces personnalités qui attribuent aux journalistes la responsabilité de tous leurs échecs, soupir Jean-Baptiste. Dégoût total, j'espère qu'il sera très sévèrement condamné, tweet Carmen. Moi je suis presque certain qu'il va s'en sortir et qu'on le retrouvera comme Juppé encore en politique. C'est comme ça, soupir Nénès, pour conclure.
Alors, avant de se demander.
Il n'y en a pas un pour le défendre?
Ah non.
Il n'y en a pas un pour défendre Cahuzac?
Mais je compte sur vous.
Ah non, mais je suis atterrée.
Ah bah allons-y, vous voulez le défendre, Elisabeth, alors?
Non, mais écoutez, excusez-moi.
Je ne savais pas à part qui commencer, bah voilà, c'est par vous.
On en est à la deuxième ou troisième affaire Cahuzac. Vous savez, il y a.
Bah c'est le premier phrase, procès pénal, non ?
Il y a une phrase qu'Alain Finkielkraut cite, j'arrive plus. C'est un type qui a fait une anthologie de la poésie.
Saint Alain.
Oui, si vous voulez, d'accord, chacun cite qui veut, mais vous
avez alors,
je n'ai jamais hué personne. Ce que ce lynchage ne vous mette pas mal à l'aise, que de voir cette meute de journalistes avides de sang, avides de voir un homme à terre, de le mettre encore plus à terre, c'est bon. Il a été condamné, il sera sans doute, il a dû payer déjà une amende, non, il a été viré, il a eu l'opprobre moral.
Elisabeth, juste pour poser les choses, et après, il n'a pas été condamné, il a payé au fisc ce qu'il devait, et là, il y a maintenant, il y a l'aspect pénal.
Très bien, mais est-ce qu'il y a quelque chose de nouveau? À part ce Gauberger, si vous voulez montrer nos belles âmes, hein, comme c'est pas bien de la fraude fiscale. Et si vous voulez, c'est l'Auvergnat. C'est-à-dire les croquantes et les croquants qui lui tapent tous dessus, il est à terre. C'est bon. On peut avoir un peu de pudeur, ça vous arrive jamais d'avoir de, je sais pas, ne serait-ce qu'un peu de compassion, de voir un type comme ça, devant une meute, ça vous fait rien, moi, ça, je vous assure, ça me révolte.
Mais pour bien comprendre votre point de vue, sa place est au tribunal, mais sans les journalistes, ou sa place est même pas au tribunal?
Si, sa place est au tribunal, comme tous les autres, si vous voulez, c'est-à-dire, mais moi, ce que je crois, c'est que vous n'allez pas trouver beaucoup dans la loi pour condamner le surplus moral, si vous voulez, d'immoralité qu'il y a dans son délit, il va être condamné sans doute plus lourdement que le serait quelqu'un d'autre. Il a surtout été, si vous voulez, l'espoir. Vous avez vu les journalistes? Alors, qu'est-ce que ça vous fait? Vous étiez l'espoir de la gauche. Et c'est dégueulasse. C'est vraiment l'appel du sang. Et c'est ce que Stendhal appelait les passions tristes, l'envie, la jalousie, la haine impuissante, le ressentiment. Il nous a volé 3 ans après, ça suffit. Là.
La même compassion, Didier Pourquerie?
Alors, je ne sais pas, parce que en tant qu'homme du Sud-Ouest, je ne suis pas très loin de la 3e circonscription de Lot-et-Garonne, qui est le fief de Jérôme Cahuzac. Donc, mais
solidarité du Sud-Ouest, hein.
Pas. Enfin, il faudrait vraiment que ça soit vraiment tiré par les cheveux, si vous.
Venant de vous, c'est dur.
Si vous me passez l'expression. Non, je pense quand même que il y a eu ce choc. Ça a été très rapide, ça a été quand même décembre 2013, après tous les discours sur la République exemplaire, il y a eu cette espèce de contre-choc de se dire « Ah mince, encore, on retombe là-dedans ». Et je pense que ce que décrit Elisabeth, et qui est en effet assez déplorable, cette espèce de haine un peu déversée comme ça.
C'est la minute de la haine,
c'est quand même à la hauteur, d'une grande déception. Et alors, je pense que oui, en effet, hélas, de telles affaires pourraient se reproduire.
Alors, ça, on va reprendre ça dans un instant.
Donc, mais je veux dire, s'il y a eu quand même une grosse déception.
Déception qui justifie cette meute pour vous, Guillaume.
Quand il était ministre, Cahuzac avait une assurance de char d'assaut. C'est quelqu'un qui avait un aplomb incroyable et qui aimait accuser les fraudeurs, Tout le monde se souvient de l'image digne du Tartuffe de Molière, où il faisait une conférence de presse contre l'évasion fiscale et la fraude fiscale, avec un regard à la Elliot Ness. Bon, quand on se conduit comme ça, il est inévitable qu'il y ait des conséquences. Donc oui, c'est vrai, en France, on aime bien voir des têtes tomber, mais il faut avouer que certains comportements au sommet encouragent cette espèce de goût de sans-culotte qui n'est pas très agréable, mais à qui la faute? Ça, c'est ma première remarque. Et puis, n'oublions pas que Cahuzac présente, je me risque à quelques considérations psychologiques, mais quand on se sait fragile, vulnérable par son comportement, on est tenté d'en rajouter pour détourner l'attention en accusant les autres.
Et la meilleure défense, c'est l'attaque, c'est bien
connu. Je me méfie toujours. Ça s'appelle la tartufferie, le pharisaïsme, effectivement. Et je me méfie toujours des hommes publics qui jouent les monsieur exigences, comme Cahuzac l'a fait au moment de sa splendeur. Et on a aujourd'hui le contre-coup inévitable de ce délire dans lequel il s'était enfermé.
Est-ce que vous méfiez des journalistes aussi qui jouent les messieurs?
Oh oui, 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 rassurez-vous. J'étends ma méfiance à ce genre de journalistes aussi.
Non, mais voir entendre plutôt Elisabeth Lévy en petite sœur des riches, c'est quand même absolument délicieux. Je pense que le plaidoyer pour Cazeneuve devrait être suivi par un plaidoyer
Cazeneuve. Attention, peut-être que Cazeneuve a aussi des choses à reprocher.
Vous savez des choses, Nicolas ?
Devrait être suivi d'un plaidoyer pour Madoff, par exemple. Mais il faudrait savoir quand même que ce sont les petits fraudeurs du fisc qui sont la plupart du temps beaucoup plus sanctionnés que les gros. C'est comme ça, c'est une loi historique. Donc,
voir un gros
fraudeur qui en plus était chargé, je vous le rappelle quand même, de la lutte contre la fraude, dire sanctionné
ça
au fond, c'est
qu'il
passe
retour.
Devant la justice, c'est quand même une chose plutôt saine pour une démocratie. Je pense qu'il serait bon aussi de prendre en compte ce qui est le plus important à mon sens, c'est le coup politique pour la gauche de cette affaire-là, parce que au fond, ça ne nous intéresse pas, Cahuzac, mais le coup politique est énorme, alors qu'il s'agit d'une faute personnelle. Effectivement, vous rappeliez la République exemplaire. Je crois qu'ils n'ont pas fini de payer et Cahuzac et Thomas Thévenoud, parce que l'un et l'autre font système et dément.
Justement là-dessus, Nicolas Damien, est-ce que fort de Thévenoud, fort de Cahuzac, dans ce quinquennat de François Hollande, on va mieux le terminer qu'on l'a commencé,
Je le crois, mais c'est le paradoxe de cette situation, c'est que jamais autant d'efforts n'ont été faits, sans doute encore insuffisants, pour amener plus de vertu, plus de transparence. Les hommes étant ce qu'ils sont, sans doute d'autres pêcheront et seront pris la main dans le pot de confiture. Mais c'est vrai qu'au fond, la haute autorité joue un rôle qui n'existait pas avant. La droite ne l'avait pas mise en route. Et bien, tant mieux qu'elle existe. Maintenant, ça ne résoudra pas tout et on aurait pu faire plus d'efforts sur la réserve parlementaire, sur les indemnités des parlementaires. Mais déjà, beaucoup ont été faits.
Il y a deux choses. Il y a la fraude fiscale, et ça me paraît assez secondaire. Condamnable, évidemment, mais assez secondaire. Le grand problème de société, beaucoup plus délicat, c'est les conflits d'intérêts. Parce que l'accusation au tribunal estime que Cahuzac a bénéficié des largesses de laboratoires pharmaceutiques comme renvoi d'ascenseur en contrepartie des décisions qu'il avait prises quand il était au cabinet de Claude Évin, ministre des Affaires sociales, entre 88 et 91. Et ça, ça dit quelque chose, si c'est vrai, de la société française.
Il n'est pas jugé pour ça, ça a été abandonné parce que...
C'est un problème qui se pose en tout cas.
Ça a été abandonné.
Et qui a entraîné certaines réformes dans la loi qui est entrée en vigueur et qui interdit par exemple aux membres des cabinets ministériels d'exercer une activité privée à côté. Ça peut paraître du bon sens, mais jusqu'à il y a deux ans, c'était possible.
Mais donc il y a des règles aujourd'hui et on a tiré les leçons de tout ça, c'est ce que vous dites.
Il y a un progrès. Mais si vous voulez, on ne pourra jamais... abandonner le soupçon. Parce que même si vous pouvez très bien être honnête et vous placer en situation de conflit d'intérêts, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous pouvez être honnête et, par négligence, vous mettre en situation où vous vous exposez à des critiques. Donc, il faut s'attaquer aux cas les plus graves. Mais il y a toujours une zone discutable, litigieuse, parce que les gens ont besoin de faire carrière, de changer de... Vous vous retrouvez avec des gens que vous avez vus dans le passé, donc c'est délicat.
Il faut peut-être arrêter de faire croire à la vertu comme ça, infinie. Montesquieu lui-même disait qu'il faut de la modération, y compris en matière de vertu.
On y revient dans un instant.
Marc-Olivier Fogiel, on refait le monde.
Dans RTL Soir. On refait le monde à 19h30 ce soir avec Guillaume Perrault, Elisabeth Lévy, Nicolas Damenac et Didier Pourquery. On se demande donc si une affaire Cahuzac pourrait de nouveau arriver en France. Didier, vous en pensez quoi? On a tiré les leçons de tout ça?
Moi, je pense qu'on a tiré pas mal de leçons, mais je suis d'accord avec un point abordé par Guillaume Perrault. Les conflits d'intérêts peuvent toujours exister. Je suis pas d'accord sur le fait que ça soit qu'en France.
Non, mais
c'est un problème de société française. Vous dites non, c'est pas un problème de société française. C'est hélas partout aux États-Unis, dans les pays, il y a des choses comme ça partout. Et ça, ça peut revenir. Et ça, c'est très embêtant. Ces espèces de connivence entre les lobbies. Surtout qu'en France, ça ne se dit pas, puisque les lobbies n'ont pas d'existence reconnue, légale, contrairement par exemple à ce qui se passe au Parlement européen. Donc je pense qu'on va encore découvrir des choses comme ça, plutôt sur les conflits d'intérêts que sur les grosses fraudes fiscales bien massives.
Oui,
de son Mediapart.
Probablement le prochain ministre du budget ne va pas faire de la fraude fiscale, on ne va pas avoir exactement l'affaire Cahuzac. Et moi, je suis quand même très réservée, moi, sur cette loi, sur la transparence. D'abord, je suis terrifiée de voir que la transparence se fout de plus en plus de la barrière de la vie privée et elle s'en fichera de plus en plus. Et pour moi, c'est un sujet d'inquiétude.
Non, mais Elisabeth, quand par exemple RTL vous révélait ce matin qu'en vue du prochain remaniement, le gouvernement, l'Élysée, soumet un certain nombre de noms à cette commission, histoire de voir si.
C'est terrifiant, c'est-à-dire l'idée.
Au moins, on sait s'ils sont propres ou pas.
Non, arrêtons de faire croire à cette histoire de propreté. Arrêtons de faire croire qu'il y a des gens propres et des gens pas propres.
Non, justement, on dit que les gens sont complexes et effectivement ont souvent quelque chose à se cacher. Mais la meilleure façon d'éviter la folie, c'est d'avoir des contre-fous ou des contre-feux. Et bien voilà, la haute autorité, c'est un contre-feu. Et Mediapart en est un autre. Parce qu'on l'a cité en passant. Et voilà, c'est important d'avoir Mediapart dans ce pays.
Ce qui est excessif, c'est de qu'on puisse savoir le patrimoine des élus. Ça, c'est pas normal. Je vois pas pourquoi on devrait. Et que par contre, des autorités administratives à titre tenu à la confidentialité puissent avoir accès à ces données, comme ça se passe.
Le balancier est allé trop loin, quoi, d'une certaine manière.
Je parle de la question précise de la publication du patrimoine. Là, que là, je trouve tout à fait injustifié. Je ne vois pas pourquoi il serait soumis à une inquisition.
C'est pas seulement injustifié, c'est inquisitorial. C'est quand même, excusez-moi, je veux dire, depuis quand on doit...
Vous n'avez pas connu l'inquisition, hein. C'est des mots qui n'ont aucun sens.
Écoutez, excusez-moi, voilà. Nicolas Domenac, mais le mot inquisitorial a pris sa place dans la langue française. Il ne fait pas forcément référence à l'inquisition.
Inquisitorial,
regardez à la Larousse, inquisitorial, ça existe aussi dans des tas d'autres contextes.
Je vais regarder.
Ne cherchez pas des poubettes dans la tête, ça n'a rien à voir avec l'inquisition.
Les cheveux, les poux, voilà, on est très capillaires ce soir.
C'est un processus inquisitorial dans le sens où il y a une suspicion de fait. Et deuxièmement, si vous voulez, il n'est pas interdit, à ma connaissance, de gagner de l'argent dans ce pays.
Mais personne ne vous le reproche, tant que c'est honnêtement.
Dès que ça a été jeté en pâture pour alimenter les jalousies, pour alimenter les fantasmes, mais si vous voulez, mais arrêtons de regarder...
Vaut mieux la transparence pour éviter ça.
Arrêtons de dire aux Français de regarder dans l'assiette du voisin, arrêtons de leur faire croire
que leur problème... Elle n'a pas totalement tort, si je peux me permettre.
Permettez-vous, on a bien besoin d'un renfort.
Vous parlez du patrimoine des élus. Là, la question, c'est est-ce qu'il faut essayer de prévenir les conflits d'intérêts, par exemple, dans le cas de pantouflage de hauts fonctionnaires qui vont dans le privé et qui sont au contact de gens qu'ils fréquentaient avant. Voilà, c'est un problème.
Cela dit, le seul point, c'est que la commission ou la haute autorité n'ira jamais chercher les comptes en Suisse.
Allez, pour terminer, dans Larousse inquisitorial relative à l'inquisition, Elisabeth, mais littéraire se dit de tout acte arbitraire. Donc vous, c'était plutôt littéraire.
Oui.
Ça m'étonne pas.
Inquisitorial, excusez-moi, il n'y a pas d'accent circonflexe.
Bon, très bien. Se dit de tout acte arbitraire, très bien. Il n'y a pas de problème, Elisabeth, littéraire. À suivre le RSA contre du bénévolat, on en débat dans un instant.
On refait le monde dans RTL Soir. Marc-Olivier Fauchiel.
On refait le monde ce soir avec Nicolas Demenac sur RTL, Elisabeth Lévy, Didier Pourquerie et Guillaume Perrault. 7 heures de bénévolat contre un RSA, c'est la mesure adoptée par le Haut-Rhin pour le président Les Républicains du département. Il ne s'agit pas de stigmatiser les chômeurs, mais plutôt de leur remettre le pied à l'étrier. Vous l'avez entendu ce matin avec Yves Calvi. Pour Marisol Touraine, il n'est pas possible de conditionner le versement du RSA au bénévolat. Alors êtes-vous choqué par cette mesure sur les réseaux sociaux, Benoît?
C'est partagé, on retrouve le bon vieux clivage gauche-droite, il existe encore, ça donne des idées à Laurent Wauquiez qui tweete « Bravo Eric Stroman qui permet aux bénéficiaires du RSA dans le Haut-Rhin une insertion par le travail et non par l'assistanat ». Nico répond que c'est beau de voir un cumulard qui félicite un autre cumulard d'exploiter la misère extrême. Je vous passe les vannes sur le bénévolat obligatoire, l'Élise demande si les Républicains ne s'attaquent pas en fait à la refonte du dictionnaire. contresens ou pas, Minshew rappelle pour sa part RSA, plus APL, plus CMU, plus exonération d'impôts, plus chèque énergie, plus ticket emploi-service, égal aller au boulot. Jean-Paul est d'accord, qui inverse l'expression consacrée pour dire que tout salaire mérite travail, mais Dali rétorque qu'une aide sociale n'est pas un salaire, et inversement. TH pense lui aussi que c'est pas l'évolution de payer quelqu'un 400 euros pour faire un travail normalement payé le SMIC. Popop imagine déjà, bonjour, cherche du travail, vous êtes au RSA? Bah non. Ah bah désolé, alors on cherche des gens qu'on n'est pas obligé de payer. Endor rétorque que c'est le principe même du RSA, revenu de solidarité active, donc je vois pas le problème. Le problème, c'est que c'est toujours ceux qui n'ont jamais travaillé qui veulent regarder les autres bosser pour des clopinettes, répond Mike. Stéphane aussi se demande si le but est d'aider les sans-emploi ou d'amplifier la précarité. Alix, pour finir, affirme, on a cotisé, on cotise pour ses droits. Quelle légitimité à réclamer du travail supplémentaire pour les percevoir?
Cette initiative, Guillaume Perreault, vous la saluez?
Oui, je trouve que c'est tout à fait légitime de la part du Conseil départemental du Haut-Rhin. C'est dans l'intérêt même des bénéficiaires du RSA. C'est quoi le grand problème quand on est chômeur de longue durée et qu'on est allocataire du RSA? C'est qu'on perd contact avec le milieu professionnel. Et plus vous restez à l'écart d'une activité professionnelle, moins vous avez de chance de retrouver un travail, tout particulièrement dans le secteur privé. Alors, la durée du bénévolat qui serait exigée par ce département, elle est tout à fait raisonnable, c'est 7 heures par semaine. Ça permet, de bloquer ça sur une journée ou deux demi-journées et de continuer à chercher du travail à côté, de conserver un environnement professionnel. Ça contribue aussi à l'estime de soi de travailler, tout simplement. L'estime
c'est
de soi,
travail.
L'estime des autres, une activité professionnelle. Par ailleurs, c'est déjà une activité.
Juste, j'allais une seconde, Nicolas. J'allais passer la parole à Didier Pourquery.
Il y a deux choses que je voudrais dire. Premièrement, le RSA. Il y a un tiers des gens qui sont au RSA, qui touchent le RSA activité. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle des travailleurs pauvres. Donc, je vous rassure, Guillaume Perreault, ils connaissent le travail, ils savent ce que c'est. Et ensuite, le RSA... Non, mais attention, j'aime bien revenir sur les mots, parce que... Ensuite, le RSA socle. Le RSA socle, on met en face du bénévolat. Alors, le bénévolat, que je sache, c'est quelque chose qu'on fait de manière bénévole. Ce que propose Eric Stroman, c'est en fait des travaux d'intérêt généraux.
Non, pas forcément. Il parlait ce matin sur RTL de chorale, par exemple. Des travaux d'intérêt généraux.
Des choses dans les associations, des trucs comme ça. Bon. Alors, je ne pense pas que c'est vraiment le problème. Ça ressemble quand même fichtrement à une mesure un peu démagogique, si vous pourrez passer l'expression, avec quand même sur fond réel le fait que, et ça Stroman le dit bien, que les départements ont des problèmes budgétaires et qu'il faut mieux gérer les budgets. Et donc, ils cherchent à trouver...
Ils vont pouvoir mieux gérer les bénévoles, alors.
Ah, ils l'assument.
Ça ne va pas leur coûter moins d'argent.
Il a expliqué que oui.
Ça ne va pas leur coûter moins de fric. Ils vont devoir gérer des bénévoles.
Oui, mais enfin, quand il dit... Comme
ça ne va pas leur faire des conneries.
Bon, on repérera les gens qui sont... Je lis ce qu'il a dit, c'est intéressant, ça. Ceux qui relèvent de l'invalidité, qui est prise en charge par la Sécu et pas du RSA, ça nous fera des économies immédiates. C'est lui qui le dit. Je pense juste qu'il faut faire un tout petit peu attention quand on met un coup de projecteur sur une catégorie sociale comme ça, très faible, très affaiblie. Mais qu'est-ce qu'on raconte là? Les gens qui sont au RSA, ils n'ont pas choisi. Donc ils ont envie de faire des trucs quand ils le peuvent.
Moi, sur le principe, ça ne me dérange pas du tout. Je trouve que c'est aussi mieux pour la dignité des gens. Ça ne me dérange pas du tout qu'on leur demande de faire quelque chose en échange. Le problème, c'est qu'on a du mal, dans un pays où on a du mal à organiser le service national pour plus que, 20 000 ou 25 000 personnes, que les travaux d'intérêt généraux, c'est la même chose, si vous voulez, ce qui a été inventé par Badinter, si je ne m'abuse, comme peine de substitution pour les gamins, les rappels à la loi, tout ça. Il y a des travaux d'intérêt généraux. C'est hyper compliqué à organiser. C'est-à-dire, supposons, vous dites, voilà, on va prendre des bénévoles, il y a partout des personnes âgées d'autres qui ont besoin qu'on s'occupe d'elles. Le seul problème, c'est qu'il suffit pas de dire, j'ai 5 types au RSA, ils vont faire ça, il faut encore savoir s'ils sont compétents, il faut encore qu'ils soient au même endroit, qu'ils soient bien, si vous voulez. Donc c'est le risque si vous voulez, c'est que sur le principe, moi, je trouve ça plutôt bien, y compris pour les gens. Il y en a plein qui disent, ça va, il faut que ce soit, d'abord, il ne faut pas que ce soit qu'on les prive de RSA s'ils ne peuvent pas. Par exemple, j'ai entendu une mère.
Là, c'est conditionné, non, mais, donc si c'est conditionné.
Il y a un problème.
Bien,
non, ça, mais il faut trouver des systèmes. Par exemple, il y avait une dame qui était, il y avait une dame qui disait, moi, je ne peux pas faire garder mes mômes. Donc, il est bien entendu qu'il faut absolument qu'on puisse prendre en compte ce type de choses. Mais sur le principe, ça n'a rien, ni d'infamant, ni d'insultant, de demander aux gens de faire quelque chose.
C'est démagogique quand on propose quelque chose dont on n'est pas sûr.
Je ne crois pas que c'est démagogique, puisque l'idée, c'est de l'expérimenter. Peut-être que ça ne va pas marcher.
Nicolas.
Il s'agit d'expérimenter quoi ? Soyons d'abord pragmatiques et après idéologiques. Pragmatique,
on recherche, on est français.
on recherche au fond à remettre sur le marché de l'emploi des gens qui en sont éloignés depuis un bout de temps. Là, ce dont on nous parle, c'est de le réinsérer dans la société au cas où ils auraient été désinsérés. C'est pas la même chose. Autrement dit, je préfère le travail auquel se livre ATD Quart-Monde avec le Parti Socialiste, qui doivent présenter une proposition de loi dans une semaine pour, au fond, utiliser les allocations chômage pour créer des emplois, travailler au fond à ce que ces gens-là retrouvent des emplois, et non pas à une réinsertion.
Enfin.
Hein non, ATD mais et ça va être expérimenté sur 6 à 7 départements. On en reparlera quand cette proposition.
C'est
dans
la semaine prochaine, ça ?
Oui, c'est la semaine prochaine. Mmh. Ça, je veux dire, ça me semble d'une logique beaucoup plus intéressante, puisqu'il s'agit au fond de l'emploi, et non pas au fond de considérer ces gens comme des feignants, parce que, alors là, je viens à l'idéologie.
Pour le coup, c'est pas ce qu'il a
dit. Non, mais
ce matin,
c'est pas ce qu'il a dit, mais c'est ce qu'il y a derrière. Je peux terminer une seconde.
Non,
il y a un combat idéologique que la gauche a perdu depuis des mois et des mois, sinon des années, à savoir qu'au fond, les chômeurs seraient des assistés et donc des feignants qui ne veulent pas retrouver du boulot.
Mais non, il y en a certains qui ne peuvent pas, Nicolas.
Mais c'est bien ce que je vous dis, nom d'un chien. Mais simplement, dans ce combat idéologique, au fond, la gauche doit reprendre pied et, au fond, se battre pour l'emploi et non pas pour l'assistanat. C'est ça la question. Je veux dire, mais ne faisons pas semblant de croire qu'il n'y a pas de combat idéologique derrière.
Non, mais l'assistanat, excusez-moi, c'est de donner du fric aux gens sans aucune contrepartie. Si vous voulez, c'est ça l'assistanat. L'assistanat, ce n'est pas de demander aux gens quelque chose en échange. Maintenant, vous dites, c'est vrai, ça, c'est vrai, c'est pas directement le travail, et moi, à mon avis, ça
mais
concerne...
c'est pas le travail.
Non, mais c'est vrai, mais ça devrait concerner au moins... Là où c'est intéressant, c'est qu'il y a un certain nombre de gens qui ne peuvent pas retrouver du travail parce qu'ils sont de toute façon... Ils ont perdu les codes de la vie sociale. Or, ça, eh ben, effectivement, si vous faites leur truc, alors la chorale, ça, par contre, ça me paraît un peu... Si vous voulez,
ça semble en tout cas un peu, si je peux me permettre, un peu bricolé, cette affaire.
Ça
part peut-être d'une bonne intention, mais c'est
un peu
maladroit et un peu bricolé, non
de la chorale. Parce que l'idée, c'est qu'ils fassent quelque chose d'utile à la...
Ça marche au Danemark, ça marche aux Pays-Bas, ça marche en Grande-Bretagne, depuis Tony Blair, qui était très adepte de ce genre de politique.
C'est quand même mieux s'ils font quelque chose d'utile à la collectivité que simplement si on leur dit...
Bien sûr, mais ça, c'est anecdotique.
Non, c'est pas totalement anecdotique, il faut savoir ce qu'on leur demande.
Poussons.
Rien ne va être proposé puisque ça va être interdit. Puisque Marisol Touraine a dit que c'est pas possible.
Non, mais
donc,
poussons ce qu'il y a derrière, puisque c'est ce à quoi rêve la droite, qui
c'est
s'est engagée.
Mais
non,
je lis
leur texte. Ce dont ils rêvent, c'est une situation à l'anglaise où vous auriez des tout petits boulots comme ça, et au fond, on obligerait les gens à travailler 2 heures, 4 heures, 3 heures, etc.
Ça existe déjà.
Le travailleur pauvre,
bien sûr. Ne faites pas semblant de ne pas voir ça.
Allez, un autre sujet dans un instant, un général 4 étoiles devant la justice.
RTL soir jusqu'à 20h. On refait le monde, Marc-Olivier Fauchet.
On refait le monde à 19h49 ce soir avec Elisabeth Lévy, Didier Pourquerie, Guillaume Perrault et Nicolas Damenac. Un général 4 étoiles, ancien responsable de la Légion étrangère, à la barre. Vous l'avez entendu tout à l'heure sur RTL, le général Picmal, qui devait comparaître cet après-midi après son arrestation lors d'une manifestation anti-migrants interdite à Calais. Son procès a été reporté au mois de mai. Il regrette d'être associé au mouvement islamophobe Pédiga, à l'origine de ce rassemblement. Alors, est-ce la place d'un haut gradé de l'armée à la retraite dans une manifestation interdite sur les réseaux sociaux, Benoît ?
Deux camps, deux légions. D'un côté, Marion Le Pen tweete son soutien au général Picmal, injustement et brutalement arrêté à Calais. De l'autre, Vic, qui estime que, bien fait, un général a un devoir de réserve et n'a pas à défiler avec des nazillons. Sur ce point, les décodeurs du Monde répondent que non, ça ne s'applique qu'aux militaires en activité, à la retraite. Le général Picmal n'avait donc pas lieu de respecter ce devoir de réserve. Général autrefois décoré pour avoir défendu la France, aujourd'hui arrêté pour avoir défendu la France, le défend lui aussi Rafa, mais une journaliste de Canal qui l'a suivi toute la matinée, a écouté ses discours, a entendu déclarer « En Corse, le problème de Calais, il serait réglé ». Moi, je m'inquiète toujours de voir que certains considèrent que des militaires peuvent être au-dessus des lois parce que militaires redoutent tort. Et le général de Gaulle, il n'avait pas non plus le droit de faire ce qu'il a fait et il a aidé à libérer la France, rétorque Sissi Patriote. À droite, on n'est pas vraiment d'accord. Quand Thierry Mariani tweet voir le déploiement de policiers pour arrêter le général Picmal et la passivité de l'État devant les no-borders me dégoûte, alors que Dominique Bussereau écrit pour un ancien officier supérieur, participer à une manifestation extrémiste, interdite, en état d'urgence, est une faute gravissime. Autre marque, le monsieur est payé pour défendre la République, pas la renverser, lance Fab. Henri conclut, un provocateur qui avait prévu son arrestation au trou pour l'exemple.
Nicolas Demelec, la journaliste de Canal+ en question, oui. C'est une journaliste de l'émission pour laquelle vous collaborez à midi.
Paula
Ferrari,
oui.
Ouais, donc ouais. Vous avez, j'imagine, regardé le reportage.
Oui, c'est pour ça que j'ai pour le moins souri quand j'entends dire que ce général, je ne suis pas raciste, non, et moi je suis danseuse étoile à l'opéra, c'est
ah
sûr.
Ouais
je suis pas, il n'est pas raciste, il est simplement xénophobe parce que quand on, et ce qui est gênant pour un ancien patron de la Légion étrangère, c'est absolument sidérant. Mais quand on entend ce que j'ai fait, tous ces propos lors du meeting qui a précédé la manifestation, on va dire pendant une heure, il a chauffé les troupes dans un petit village à 10 km de Calais pour leur expliquer qu'au fond, les immigrés étaient des barbares qui allaient nous envahir et qu'il fallait faire comme en Corse et faire ce qui revient au fond à provoquer des ratonnades, ni plus ni moins. Donc en plus, il s'exprimait devant un drapeau de Péliga. Donc c'est vraiment dire qu'il ne les connaissait pas alors qu'il a rencontré le responsable à plusieurs reprises, donc notre journaliste était là, je veux dire, c'est quelque chose qui rend très très mal à l'aise, je veux dire, parce qu'au fond c'est vrai qu'on sent
il assume pas, quoi, en plus,
qu'il n'assume pas et que sa place n'était pas là, mais je terminerai, en plus il n'a absolument pas été arrêté brutalement contrairement à ce que prétendent tous les dirigeants, pas tous d'ailleurs, une partie des dirigeants du Front National, parce que c'est la tendance Marion Maréchal Le Pen qui a pris le plus vertement sa défense, ce qui n'empêche qu'il y a un problème de fond qui est posé, bon on en parlera peut-être une autre fois, qui est que maintenant, est-ce qu'on va interdire toutes les manifestations, je veux dire, après celle des écolos pendant la COP21 ?
C'est pas le fond
du problème. Je veux dire, c'est un général n'a pas à tenir les propos qu'il a tenus, à mon sens, je veux dire, quand il représente, font ce qu'il représente, l'armée. Enfin,
il est libre d'avoir des opinions qui vous déplaisent.
Deux choses. Quand une manifestation est interdite, on respecte cette interdiction. Donc, tout citoyen,
son avocat commençait à me dire tout à l'heure qu'il n'était pas au courant qu'elle était interdite.
En tout cas, tout citoyen qui s'y rend se met en tort. Donc, il n'aurait pas dû être là. C'est une erreur. C'est même une faute. Maintenant, je suis quand même choqué, comme beaucoup de gens, que quelqu'un qui a servi la France comme ce monsieur, que je connais pas, se retrouve en comparution immédiate, alors que dans le même temps, il y a des casseurs à Rennes qui restent totalement impuni une nouvelle fois et que les Calaisiens vivent dans une ambiance d'insécurité et de délinquance qui est quand même saisissante. Comment voulez-vous que l'opinion perçoive ce qui se passe ? Qu'est-ce que vont dire les gens, même si c'est un peu schématique ? Ils vont dire les no-borders qui chauffent les migrants, on les laisse, on leur fout la paix. Et un ancien général 4 étoiles qui manifeste et qui exerce une de ses libertés constitutionnelles.
Enfin, ils peuvent le penser, mais ce n'est pas la réalité. Non, les casseurs, on leur fout pas la paix.
Ça sera une perception schématique.
Non, non.
C'est ce que j'ai
c'est
dit.
C'est schématique. Ils sont poursuivis.
C'est ça qui va rester. Et ça, c'est dramatique. C'est absolument dramatique.
Écoutez, il me semble qu'il y a une phrase dont tous les indignés, une phrase de Voltaire dont tous les indignés d'aujourd'hui, ceux qui sont pour qu'on arrête le général Picmal, etc., se réclament tout le temps, c'est « je ne partage pas vos opinions et je me battrai pour que vous puissiez les défendre ». On n'a pas interdit, me semble-t-il, la plupart des manifs pro-Gaza où ils se disaient des choses tout à fait désagréables entre nous. Moi, j'étais plutôt contente, je n'ai jamais demandé à ce qu'on les interdit, je trouve ça très bien. Je trouve qu'il faut aller assez loin dans la liberté. Par ailleurs, il y a eu des manifs contre l'état d'urgence, que l'interdiction a été plus ou moins respectée, pas très bien, et on s'en est pas offusqué. Il y a eu les taxis, on s'en est un peu plus offusqué parce qu'ils étaient violents. Je trouve ça incroyable, si vous voulez, qu'on arrête ce général, en quelque sorte, pour délit d'opinion, parce que... Alors, on dit que c'est un... Nicolas dit que c'est un parti... Ce sont des gens xénophobes. J'ai pas entendu ces propos.
Ouvrez vos oreilles.
D'accord. Je n'ai pas entendu ces propos que vous avez cités. Oui, excusez-moi. Ben, oui. D'accord, Nicolas. Votre ricanement tout le temps, c'est...
Mais c'est pas un ricanement, c'est...
Bon, alors donc...
Vous avez des naïvetés, parfois, alors que d'autres moments, vous êtes...
Je suis bête et naïve.
Je suis bête et naïve.
Il a pas dit ça. Oui, bête, alors, non, Elisabeth.
Non, simplement, vous avez une écoute sélective, quoi. Non, il y a des choses que vous entendez, et puis ça doit être l'oreille gauche qui est un peu...
D'accord, bon, ça y est, vous avez fait
non, mais là, en l'occurrence,
j'ai entendu ce que vous avez cité, vous. Excusez-moi, j'ai l'honnêteté de vous dire que je ne les ai pas entendus. En revanche, il me semble qu'on a le droit, aujourd'hui, et même, je veux dire, ça doit être toléré par la loi et donc par la société, on a le droit d'exprimer une critique de l'islam, de dire qu'on est contre l'islamisation. On a le droit de le dire. Ça vous déplaît, mais on a le droit de le dire. On a le droit de dire qu'on est contre l'immigration. Ça vous déplaît peut-être, mais c'est Elisabeth, ça la
il, c'est la façon dont il le dit. Il ne s'agit pas de le dire avec ces termes-là.
On a le droit d'appeler les Français à faire comme ce qui s'est passé en Corse, c'est-à-dire une chasse.
Non, je vous dis tout de suite, laissez-moi finir. Mais vous voulez pas que je vous réponde, bon sang, vous arrêtez pas de m'interrompre. Laissez-moi répondre.
Elisabeth, calmos. Mais au moins, ça...
je vais répondre.
Voilà, concrètement,
d'accord,
à ça, pas dans l'absolu.
Si vous voulez que des conneries dans des manifestations, ils sont dit tous les jours que politiquement, c'est totalement idiot. Qui est en première ligne aujourd'hui, ce sont les légionnaires, si vous voulez, auprès de qui Piquemal est très populaire. Donc c'est un message totalement idiot. On n'arrête pas les no-borders, c'est pas vrai, on ne les arrête pas.
Factuellement, on les arrête.
On a arrêté les gens qui ont tagué sur les Nique la France, sur les statues de Gaulle. Donc, ces idées nous déplaisent, combattons-les autrement que par ce genre de choses qui, de toute façon, ne fera que les renforcer. Ça déplaisant, pour répondre à Nicolas, sérieusement, je trouve ces propos extrêmement déplaisants. Je pense simplement qu'il se dit des horreurs dans un certain nombre de manifs tous les jours, si vous voulez. Alors, je trouve que cette tolérance... Si vous voulez, la géométrie variable est un peu étrange.
Il y a un problème d'égalité de traitement.
Juste un point, il a été mis en avant de manière assez ostensible. Moi, c'est un peu triste. Il a bien servi quand même la cause terme, le 6 février.
Je parle du 6 février.
Et donc, il les a bien servis, parce qu'on l'a mis en avant, en disant, voilà, général. Puis maintenant, il doit être emmerdé. À mon avis, il y a quelque chose en lui qui s'aperçoit que il a un peu déconné, je pense. Et donc il est pas clair dans ses propos, parce qu'il a dit en effet ce que vous dites, Nicolas, mais aussi il tient des propos assez confus. Donc tout ça est assez triste, finalement. C'est assez triste de voir un grand militaire finir comme ça.
Oui, non, mais il faut j'espère que le tribunal tiendra compte de ses états de service qui sont brillants.
On verra bien. Résultat, au mois de mai, puisque là, il était à l'hôpital, il en sort,
mai.
Et donc
ça sera au
mois de mai. Merci à tous les quatre, merci à Nicolas Domenac, à Elisabeth Lévy, à Didier Pourquery, Guillaume Perrault, Nicolas, qu'on retrouve mercredi dans RTL Matin à 8h30, et lundi prochain dans Refait le Monde.